Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Ce soir sur Transistor et pour son dernier numéro, Des Racines et des Perles se lance un défi. Parler avec chaleur de l'hiver et du froid glacial. Soyez sans crainte, l'hiver sera resté loin de vos cœurs et le froid sans esprit vengeur. Avant tout, laissez-moi formuler l'espoir que notre hiver ne soit pas celui des proverbes. Car l'hiver des proverbes dure beaucoup trop longtemps, jusqu'en mai à en croire à l'ami mais que d'hiver, et peut être dévastateur comme celui de la formule « il n'a pas besoin d'un fort hiver ». D'abord, à la mi-mai que d'hiver, cette expression qu'on retrouve dans le dictionnaire du 19e, fait voir l'image d'un hiver qui laisserait traîner ses derniers effets jusqu'en mai, mois pendant lequel pourtant on a normalement carte blanche pour nous découvrir de tous nos fils. D'un autre côté, quand on dit de quelqu'un qu'il n'a pas besoin d'un fort hiver, c'est plus à l'intensité qu'à la longueur de l'hiver qu'on fait référence. Avant tout utilisé pour désigner ceux qui ont la santé fragile, à l'instar de la plante que l'hiver vient lentement achever, il est peu à peu usité pour évoquer ceux dont la faillite financière pourrait arriver au moindre coup de vent. L'hiver, c'est donc bien plus qu'une saison dans la langue française, il peut d'ailleurs symboliser un certain âge de la vie ou même être teinté d'une dimension affective assez forte. Plutôt que de compter les années, certains préfèrent compter les hivers, sur le modèle des tournures qu'on retrouve fréquemment dans les poésies latines. On peut par exemple entendre dire « compter 70 hivers » plutôt que « avoir 70 ans », apparemment la pilule passe mieux. Et puis l'hiver peut faire en général référence à un âge avancé dans l'opposition topique avec l'idée de la jeunesse comme un printemps. C'est le cas dans les expressions « l'hiver des ans » qui peut désigner la vieillesse ou le déclin, ou dans la formulation courante « l'hiver de sa vie » pour parler d'une période qui est proche de la mort. Un peu sur le même principe, l'hiver, c'est aussi une période d'obscurité ou de stérilité, comme quand on dit l'hiver de la barbarie ou encore l'hiver de mon cœur. Que ce soit la période sombre d'une régression culturelle ou morale ou celle d'une tristesse affective, l'hiver, vous l'aurez compris, c'est rarement positif. On aurait tendance à dire que cette saison n'est pas tout à fait appréciée pour sa juste valeur, et qu'on est prompt à oublier, je vous l'accorde, c'est un peu normal avec tous ces bouleversements climatiques, l'éclat des neiges de décembre et la chaleur de l'âtre des logis. On aurait tendance à dire que cette saison n'est pas tout à fait appréciée pour sa juste valeur, et qu'on est prompt à oublier, et je vous l'accorde, c'est un peu normal avec les bouleversements climatiques, l'éclat des neiges de décembre et la chaleur de l'âtre des logis. Pas de panique, Transistor est là pour vous apporter un peu de chaleur et de bonheur à l'heure où vos mains sont frigorifiées et vos manteaux impuissants à contrer toute la froideur de ce monde de brut. Après tout, le froid, c'est pas toujours un mal. Si vous vous sentez l'esprit vengeur, vous serez peut-être content de savourer une froide revanche. De manière plus positive encore, si vos mains sont froides, peut-être que votre cœur, lui, est chaud. Le proverbe « froide main, chaudes amours » qui court dans notre langue depuis l'époque classique reste une jolie manière de nous apprendre que l'apparence physique ne dit pas tout de notre intériorité. Ceux qui paraissent froids, selon cette idée, peuvent se révéler très passionnés en amour. Mais bon, je suis d'accord avec vous, le froid ce n'est que rarement positif en soi. Et même en parcourant la densité sémantique du terme, on a du mal à y voir de quoi se réjouir. Le froid d'abord, ça ne s'applique pas qu'au toucher. On peut parler d'une odeur, d'un son ou d'une couleur froide par exemple. Et souvent, cela se laisse comprendre dans une double opposition assez courante entre d'un côté la chaleur et la vie, et de l'autre la froideur et la mort. L'odeur froide est souvent convoquée dans les littératures naturalistes et symbolistes, par exemple, pour évoquer ces effluves stagnantes, malsaines, peu vivantes. Les sons froids, comme les sons du cliquetis des métaux, par exemple, sont ceux qui nous renvoient à la dureté et à l'hostilité. En art ou en architecture, les symétries, les lumières ou les couleurs froides renvoient, elles, souvent à une monotonie, à une absence de vie. Et on peut ainsi parler d'une froide symétrie des pierres, par exemple, d'une nudité froide des allées, pour décrire un paysage urbain ou encore d'une lumière froide. Le froid semble renvoyer à une certaine netteté et éventuellement à une beauté un peu distante. D'ailleurs, l'œil froid, c'est celui qui regarde la situation avec distance, précisément. Cette évocation globale est assez opérante dans toutes les expressions où le froid sert d'image pour indiquer l'indifférence. Là où l'émotion est liée à l'échauffement des cœurs et des corps, ce qui nous laisse froid, lui, nous laisse indifférent, de marbre. Donc le froid, ce serait aussi, en quelque sorte, l'absence de mouvement. Dans l'idée des baisers froids, d'une froide étreinte ou d'amour froide, l'absence de chaleur physique fait signe vers l'absence d'intensité affective. Et pour cause, le froid, c'est tout sauf la passion, c'est ce qu'on range plutôt du côté d'un calcul réfléchi, et ce du moins depuis le 19e. Le froid calculateur qui s'est dépossédé de tout scrupule et de toute empathie. Quand on a le cœur froid, du moins au sens métaphorique, c'est qu'on manque de sensibilité ou de compassion. Un discours froid ne nous fait aucun effet, comme l'utilisent parfois certains critiques littéraires qui doivent être des plus froids de leur profession. Une poésie ou une peinture peuvent être froides, sous-entendu techniquement très réussies, mais sans plus. D'un côté, peut-être un chouïa plus positif, le froid c'est aussi la maîtrise, le sang-froid finalement. On a une opposition courante entre le sang chaud et la tête froide, entre impulsivité et réflexion, qui va se diffuser dans tout un tas d'expressions, comme par exemple dans l'idée de rester froid devant un danger, c'est-à-dire de garder son calme dans une situation difficile, ou dans celle d'agir à froid, c'est-à-dire d'agir sans être échauffé par l'émotion. Mais le froid, ce n'est pas, comme on pourrait croire, la seule absence d'émotion, parce qu'on peut très bien parler de rage froide par antithèse avec la colère brûlante. D'ailleurs, avoir froid dans le dos ou dans la poitrine, c'est souvent synonyme de peur ou de détresse, une émotion négative, mais une émotion quand même, et qui peut même nous amener à avoir des sacrés coups de chaud, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, le froid, c'est toujours apparemment ce qui nous éloigne les uns des autres. On peut par exemple se mettre en froid ou jeter un froid, ouvrant dans notre climat relationnel une grande ère glaciaire. Certains n'ont d'ailleurs en réserve de quoi prolonger l'hiver jusqu'au mois de mai, vous me direz. Et peut-être vous me direz aussi que je n'ai pas froid aux yeux pour faire de pareilles remarques et je n'ai rien à répondre si ce n'est que vous ne me faites pas froid dans le dos. Mais bon, je m'amuse un peu à souffler le chaud et le froid, à adopter tour à tour des attitudes opposées, à être ambiguë et peut-être même inconsistante. Cela dit, j'aime bien cette expression qui vient de la fable d'Ésope, avec l'image de celui qui, paradoxalement, souffle sur ses doigts pour les réchauffer et sur sa soupe pour la refroidir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un hiver très doux et des potages bouillants. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un hiver doux et des potages bouillants. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie d'avoir été à mes côtés pour ce tout dernier épisode des Racines et des Perles, à retrouver bien sûr sur transistor.fr.